Le désarroi de parents découvrant que leur ado est de droite et qu'il adhère aux éditos de Dominique Seul.
Il n'y a pas d'alternative avec la réalité.
Il n'y a pas d'autre choix.
Il n'y a pas d'alternative.
Ça passe pas bien, ça, cette idée-là. Ça passe pas bien.
Et tout de suite, c'est l'heure des clés de l'écho. Et cette semaine, c'est Jean-Michel Cabanne. Bonjour Michel.
Michel, oui.
Pardon.
Bonjour.
Michel, tu es professeur d'économie émérite à l'université de Bordeaux-Montaigne. Et cette semaine, tu nous parles des paradoxes néolibéraux des finances publiques.
Oui, je n'étais pas prof, j'étais maître de conférence. Hein, c'est tout. C'est tout.
D'accord.
Voilà. Oui, on va parler des déficits et de la dette qui reviennent sur le devant de la scène médiatique et politique. Comme d'habitude, cela sert à justifier de futures mesures d'austérité pour diminuer les dépenses publiques. Alors les bons apôtres qui tiennent ce discours et qui ne jurent que par le marché, ils oublient simplement la responsabilité du capitalisme néolibéral dans la tendance à la dégradation des finances publiques. Cela stimule indirectement les dépenses publiques et sociales et en même temps, cela réduit directement les recettes fiscales. Évidemment, ça donne des déficits successifs et une montée de la dette. Alors d'abord, le paradoxe des dépenses publiques. Les politiques néolibérales ont libéré les forces du marché depuis les années 80 par la déréglementation, les privatisations, la flexibilisation des marchés du travail, etc. Alors tout cela a stimulé la marchandisation, la financiarisation, la mondialisation et le primat des actionnaires dans la gestion des firmes. Ces transformations, elles ont provoqué des déséquilibres économiques et sociaux, notamment en France, la désindustrialisation, la montée de la précarité, de la pauvreté, des tensions multiples au sein de la société. Tout cela a entraîné aussi des inégalités de revenus accrues et ainsi que du patrimoine en faveur des détenteurs du capital au détriment des salariés. Ça a entraîné aussi des disparités entre salariés au regard de l'emploi et du revenu. Dans ce contexte dégradé, le recours à la protection sociale et à l'état social en général s'est avéré impératif pour assurer le consentement de la population à l'ordre existant et pour préserver la société. Cela a impliqué une augmentation de la redistribution par des transferts sociaux dans le cadre de la politique sociale et nécessité aussi des dépenses supplémentaires pour les services publics et diverses fonctions collectives. Par ailleurs, le recours accru à l'État s'est avéré nécessaire pour les entreprises et pour l'économie capitaliste. D'une part, dans la logique néolibérale, l'État a souvent augmenté les aides aux entreprises pour soutenir la compétitivité et la rentabilité du capital. D'autre part, les crises successives liées au capitalisme néolibéral ont impliqué des dépenses publiques supplémentaires pour soutenir les revenus des ménages et les débouchés des entreprises. D'où un premier paradoxe, dans le capitalisme néolibéral, les budgets publics et sociaux tendent à croître à long terme, ce qui est contraire au projet néolibéral. Cela permet d'éviter que les dégâts sociaux du néolibéralisme provoquent une explosion sociale et une forte dégradation économique. D'où la difficulté pour les gouvernements d'inverser la tendance par leur propre politique d'austérité. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le paradoxe des déficits publics et de la dette publique. En effet, le néolibéralisme entraîne aussi directement un manque de recettes publiques. D'abord, l'idéologie anti-impôt qui domine, qui sert d'abord les intérêts du capital et des plus riches, se traduit par des baisses d'impôts en faveur des entreprises, impôts sur les sociétés, en faveur du capital, fiscalité de l'épargne, et en faveur des ménages les plus riches, moindre progressivité de l'impôt sur le revenu, suppression de l'impôt sur la fortune, etc. Ensuite, la mondialisation néolibérale nuit aux recettes publiques à deux titres. Ça permet une fuite des bases fiscales qui sont mobiles au niveau des profits et des capitaux, en partie vers les paradis fiscaux, et ça génère une compétition fiscale entre les États qui conduit à la baisse des taux d'imposition correspondants, notamment au sein de l'Union européenne. Enfin, le souci de maintenir la paix sociale nécessite aussi certaines réductions de prélèvements obligatoires sur les ménages les plus démunis. D'où un second paradoxe, les déficits publics permanents et l'endettement public élevé qui caractérise l'ère néolibérale, ce qui est contraire à l'orthodoxie budgétaire de nombreux penseurs néolibéraux. En effet, les finances publiques sont plus dégradées sous le capitalisme néolibéral des 40 dernières années que sous le capitalisme de compromis social des 30 années précédentes. Cela résulte, disons, de la collision entre le néolibéralisme fiscal et la nécessaire hausse des dépenses publiques. La disparition de tensions sur les finances publiques n'est décidément pas pour demain. Il faudra d'abord rompre avec l'idéologie antifiscale dominante chez les néolibéraux.
Merci beaucoup Michel pour cette chronique et on te retrouve d'ici un mois environ pour la prochaine.
Merci beaucoup.